Eh bien, nous allons passer donc à la communication du jour. Il ne devrait pas être nécessaire de vous présenter Louis Vogel, mais comme nous avons la chance d'avoir beaucoup de personnes présentes, non membres de l'Académie, dans cette salle, qui nous font l'honneur de venir assister à nos séances, je me dois de le présenter. Il siège parmi nous depuis janvier 2020, date à laquelle il a été élu au fauteuil qu'occupait alors André Damien. Rappelons qu'il est polyvalent. C'est un universitaire, c'est un avocat, c'est un homme politique, c'est un académicien, entre autres choses. Universitaire, professeur de droit privé, il a présidé l'université Panthéon-Assas du 3 juillet 2006 au 20 juin 2012. Il a également présidé la conférence des présidents d'université 2010-2012. Notons qu'il a publié en 2010 un ouvrage intitulé « L'université, une chance pour la France ». Il n'y a pas de point d'interrogation, hein, c'est suivi d'un point, c'est positif. En 2016, cela. Justice année zéro, ce qui le conduit à parler aujourd'hui, en 2018. Les sept péchés capitaux de l'Europe. Et il vient de publier « Reconstruire l'université ». Avocat, c'est un spécialiste reconnu, entre autres disciplines, du droit de la concurrence. Homme politique, il nous le dira, il fut maire de Melun de 2016 à 2023, président de la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine de 2014 à 2023, conseiller régional d'Île-de-France en 2021, et le 24 septembre 2023, il est élu sénateur de Seine-et-Marne, et comme il se doit, il siège à la commission des lois. C'est au maire que je m'étais adressé en bâtissant ce programme de communication. Pourquoi ? Parce que les maires, même s'ils sont les personnages politiques les plus appréciés de nos compatriotes, sont bien souvent au cœur de la tourmente et confrontés au monde judiciaire, soit comme mis en cause, soit comme victime. Dans un monde de plus en plus judiciarisé, leur responsabilité civile, mais aussi pénale, a tendance à être recherchée. C'est ce qui a conduit en 1999 une commission sur la responsabilité pénale des décideurs publics que présidait Jean Massot et à laquelle j'appartenais, a formulé différentes recommandations qui donneront naissance à la loi du 10 juillet 2000, dictateur loi Fauchon, car M. Fauchon n'a pas souhaité en endosser seul la paternité, et cette loi était destinée à resserrer les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale des décideurs publics, dont les maires. Une nouvelle commission, ai-je lu, vient d'être mise en place sous la présidence de Christian Vigouroux, président de section honoraire au Conseil d'État, que nous avons primé l'an dernier pour son livre, son beau livre, sur la société du dédain. Par ailleurs, vous n'ignorez pas que le Parlement vient d'adopter un texte renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires, notamment en alignant les sanctions prévues en cas de violences commises sur leur personne sur les sanctions qui punissent les violences commises envers les forces de l'ordre. Pourquoi faire intervenir un maire aujourd'hui ? Parce que, s'agissant de la petite et moyenne délinquance du quotidien, ils sont en première ligne, au cœur des problèmes dont nous entendons quotidiennement et plus que jamais ces jours derniers parler. Tout comme le procureur de la République, qui est devenu un de leurs interlocuteurs habituels, en bilatéral ou dans le cadre de multiples commissions, oui, ils sont en première ligne, soucieux de répondre aux préoccupations de leurs concitoyens, et dans la mesure où ils le peuvent, d'améliorer la situation. Quel regard un maire avisé tel que Louis Vogel porte-t-il sur la délinquance du quotidien, celle dont l'impact sur le fonctionnement de notre démocratie est immense, celle qui tente à se tourner comme si elle pouvait tout résoudre vers l'institution judiciaire, mais il va nous le dire. Et la semaine prochaine, le procureur de la République de Meaux, important parquet de la Seine-et-Marne, nous donnera à son tour son point de vue. Louis, nous vous écoutons. Avec intérêt et joie.
Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers consoeurs, mes chers confrères, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, mars 2014, campagne électorale des municipales. Melun, ville de 42 000 habitants, chef-lieu du département de Seine-et-Marne, la moitié de l'Île-de-France, dont j'aurai l'honneur d'être le maire pendant 7 ans, au cœur d'une agglomération de plus de 135 000 habitants, que j'ai également présidé pendant 10 ans. Gérard Millet, maire de Melun à cette époque, avec lequel je fais équipe, souhaite que nous rencontrions les habitants des quartiers nord. Nous discutons paisiblement sur la place centrale, quand tout à coup, un groupe de jeunes de 12 à 15 ans nous lance des cailloux au cri de « Le maire dehors, ce n'est pas ta ville ». En réalité, nous avions, sans le savoir, dérangé le trafic de stupéfiants. Nous avons juste le temps de rejoindre notre véhicule. Les projectiles pleuvent. Il faudra faire refaire la carrosserie. Gérard pleure. Il avait tant fait au cours de ces dernières années pour ces quartiers-là, précisément. 10 ans ont passé depuis cet événement. Durant ces 10 années, lors de rencontres informelles dans les rues de la ville, de rendez-vous individuels en mairie, ou pendant mes permanences hebdomadaires dans chacun des quartiers de Melun, j'ai pu constater la préoccupation, l'inquiétude ou la colère des habitants directement liés à l'insécurité. Une délinquance banale dégrade la vie quotidienne et les habitants ne croient plus l'État capable de résoudre le problème. Les habitants de certains quartiers doivent, pour entrer chez eux, présenter leur carte d'identité et attendre que les dealers qui occupent les halls d'immeubles, transformés en boutiques de vente de drogue, les autorisent à le faire. Les boîtes aux lettres et les véhicules sont régulièrement endommagés, vandalisés ou tout simplement brûlés, en particulier lorsque les jeunes du quartier vous ont repéré, par exemple parce que vous ne vous êtes pas laissé faire. Les jeunes venus de tout le département se donnent rendez-vous sur une place centrale des quartiers nord et font du bruit toute la nuit, empêchant les voisins qui, eux, travaillent le jour suivant, de dormir. Les bâtiments publics, d'État ou communaux, pourtant à la disposition de tous, sont régulièrement dégradés. Les bus sont contraints, pendant des semaines, de ne plus desservir un ou plusieurs arrêts en raison des caillassages ou d'altercations avec les chauffeurs, astreignant des milliers d'habitants de l'agglomération à allonger leur trajet. La poste, les pompiers, les médecins refusent de se rendre dans certaines rues en raison d'une trop forte insécurité. Les attroupements de marginaux ou tout simplement de personnes inactives, qui parfois deviennent agressives, abîment l'image du centre historique de la ville et réduisent l'attractivité des commerces au grand dam des commerçants. Les Melunaises et les Melunais sont les victimes quotidiennes de la violence de notre société. Malheureusement, Melun n'est qu'un exemple, parmi beaucoup d'autres en Île-de-France. Ce n'est pas la pire des villes. Les habitants intègrent la violence à leur comportement. Ils ont peur. Ils vivent désormais sur leur garde, en amenant les enfants à l'école, en les accompagnant aux activités périscolaires, ou en empruntant les transports en commun. Que disent-ils, ces habitants ? D'abord, ils sont las de voir leur quotidien confisqué par une petite minorité. Ils expriment aussi leur déception à l'égard des pouvoirs publics qu'ils identifient au gouvernement ou à l'État, qu'ils estiment impuissants à les protéger. Tous ces faits que je viens de relater relève de ce que l'on appelle la petite et moyenne délinquance, par opposition à la grande délinquance que nous connaissons également et qui prend le plus souvent la forme d'homicides, de viols ou de trafic de stupéfiants. Ces comportements, qui en soi ne seraient pas très graves, procèdent souvent de ce que l'on appelle aujourd'hui les incivilités. Mais récurrents et pris ensemble, ils créent une atmosphère délétère, un climat d'insécurité, le climat que dénoncent les médias et que ressentent nos concitoyens. Les statistiques nationales concernant ces incivilités montrent que la situation se dégrade, qu'elle se dégrade vite et qu'elle infuse dans toute la société. Les médias, et la télévision la première, ne cessent d'évoquer la délinquance, De nombreux films, comme « Dipan » de Jacques Audiard ou « Les Misérables » de Lajli, décrivent avec justesse la vie difficile de ces quartiers. La réalité est encore plus complexe. Les statistiques de long terme prouvent que les faits graves deviennent en réalité de moins en moins nombreux et que nous vivons dans une société de plus en plus sûre. Le taux d'homicide a par exemple été plus que divisé par deux entre 1993 et 2022. C'est donc bien l'explosion de la petite et moyenne délinquance depuis les années 70, sous la forme d'atteintes aux biens comme les vols de voitures ou les cambriolages, ou d'atteintes aux personnes comme les coups et blessures, qui crée ce sentiment, ce climat d'insécurité de plus en plus partagé par l'ensemble de nos concitoyens. Paradoxalement, ce n'est pas la grande délinquance, mais la petite et la moyenne délinquance qu'ils vivent au quotidien qui produit le plus d'effets sur nos concitoyens. Or, pour cette délinquance, la petite et la moyenne, la plupart des indicateurs sont en hausse. En 2023, par rapport à 2022, plus 7% pour les coups et blessures volontaires, plus 2% pour les vols avec armes, plus 3% pour les cambriolages, plus 5% pour les vols de véhicules, plus 3% pour les destructions et dégradations volontaires. En 2023, près de 400 000 personnes ont été victimes de coups et blessures volontaires et plus de 50 000 d'un vol violent. La même année, ont été recensés plus de 200 000 cambriolages et presque 600 000 dégradations volontaires. Parfois, ce quotidien s'enflamme. Les émeutes de juin et juillet 2023, dont Melun s'est également victime, révèlent une société prête à s'embraser. Elles fournissent un concentré de comportements délictuels et donnent une image assez précise des caractéristiques et des causes latentes de la petite et moyenne délinquance. La mission d'information sur les émeutes, créée par la Commission des lois du Sénat et à laquelle j'ai participé, a rendu ses conclusions le 10 avril dernier. Les émeutes qui viennent de se produire se distinguent assez fortement de celles de 2005 qui les ont précédées. Elles nous en apprennent beaucoup sur notre situation actuelle. Qu'a constaté la mission d'information ? D'abord, ces émeutes se sont déroulées en deux phases. La première, dite émotionnelle, survient dès le 27 juin au soir, c'est-à-dire le jour même du décès de Nahel Merzouk à Nanterre. Dans ce premier temps, les violences urbaines présentent une charge politique marquée, d'abord concentrée dans les banlieues des grandes métropoles. Elles traduisent l'expression d'une colère intense et sont principalement dirigées contre les forces de sécurité ainsi que les autorités et les biens publics. Cette phase correspond exactement à celle que nous avions déjà connue en 2005 à la suite du décès accidentel de Zied Berna et Bouana Traoré à Clichy-sous-Bois. Mais, phénomène inédit, à compter du 30 juin et du 1er juillet 2023, un basculement s'opère des émeutes vers ce que les spécialistes ont qualifié de phase insurrectionnelle, marquée par une expansion territoriale fulgurante qui se diffuse rapidement à l'ensemble du territoire national sous la forme d'une vague de destruction et de pillage sans précédent, mêlant comportements opportunistes et déchaînement aveugle de violence. La décrue se révélera aussi soudaine que l'embrasement. L'intensité et l'immédiateté des réactions et de l'expression du mouvement ont eu pour corollaire son épuisement accéléré, notamment grâce à une réponse très rapide des pouvoirs publics. Deuxième constat, les infrastructures attaquées, détruites ou incendiées au cours de la seconde phase étaient surtout des bâtiments publics, symbolisant l'autorité. Mairie, poste de police, poste de pompiers, mais aussi des bâtiments publics ou privés situés dans les quartiers destinés à rendre service aux habitants de ces quartiers. Médiathèque et école à Damary-les-Lys, à côté de Melun, restaurant scolaire et crèche à Melun, centre commercial au Mets-sur-Seine, comme si les émeutiers contestaient l'utilité sociale de ces implantations dans leur quartier. Troisième constat, au-delà du rapport désinhibé à la violence, qui est allé dans certains cas jusqu'à mettre en danger la vie des personnes, de l'usage massif de mortiers d'artifice et de la très bonne organisation des émeutiers grâce à l'utilisation des réseaux sociaux, aussi une nouveauté, l'amplitude géographique de ces émeutes a largement dépassé les seuls quartiers dits sensibles. 95 départements ont été touchés, contre 25 en 2005, et 23% des infractions recensées l'ont été en zone gendarmerie, c'est-à-dire en zone rurale ou dans des villes petites et moyennes. Quatrième constat, l'évolution de la sociologie des émeutiers. L'analyse des données issues des travaux de l'Inspection générale de l'administration, de l'Inspection générale de la justice et de la protection judiciaire de la jeunesse offre une image du profil des personnes qui ont participé aux émeutes. Deux caractéristiques frappent. Tout d'abord, la jeunesse des personnes concernées. L'âge moyen s'élève à 23 ans et un tiers des 3500 personnes interpellées est mineur. Ensuite, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les émeutiers ne se situent pas en marginalité sociale. En effet, 60% des personnes interpellées sont des primo-délinquants et si du point de vue familial et socio-économique, ils se trouvent dans des situations globalement plus fragiles et défavorisées que la moyenne des habitants, près des trois quarts des mineurs déférés sont tout de même inscrits dans une formation professionnelle supérieure. Cette sociologie et cette répartition géographique rappellent celle des Gilets jaunes. Aux côtés de personnes déclassées, des individus correctement insérés dans la société adhéraient pleinement à cette fronde et participaient aux actions violentes qui en ont découlé. La situation sécuritaire est donc bien complexe aujourd'hui. Depuis 2005, et malgré les politiques mises en place par la puissance publique, sur lesquelles je reviendrai, le phénomène de contestation s'aggrave, à la fois qualitativement et quantitativement. Pour assurer la paix civile, il faut évidemment, mais ce n'est qu'un remède parmi d'autres, renforcer les moyens de la sécurité, mais il faut surtout rechercher les causes afin d'accroître l'efficacité de l'action publique et de mettre en place des politiques beaucoup plus fines que celles que nous avons déployées jusqu'à présent. Les causes. Les mesures de répression nécessaires ne peuvent réagir qu'aux symptômes et, par définition, ne soignent pas le mal. Pour être efficace et produire un effet durable sur le quotidien des habitants, la répression doit s'accompagner de mesures adéquates de prévention et d'insertion qui doivent intervenir très en amont du problème à résoudre. Il faut manier les deux instruments à la fois, mais un élu local ne peut essentiellement agir que sur le volet prévention de la délinquance. Pour déterminer quelles mesures de prévention et d'insertion il convient d'adopter, ne nous arrêtons pas à la surface. Là encore, les émeutes de 2023 sont très éclairantes. Selon l'analyse des chercheurs en sociologie et sciences politiques interrogés par la mission d'information, les violences procéderaient d'un sentiment de relégation sociale, d'un désancrage subi ou entretenu entre ceux qui s'adonnent à la délinquance et le reste de la population. Plus précisément, les sociologues soulignent une corrélation entre la ségrégation résidentielle et scolaire et les violences urbaines. Un nombre significatif de communes qui ont connu des émeutes se caractérise par une surreprésentation de collèges publics très populaires et très homogènes. Dans les banlieues parisiennes, 73% des villes en quartier politique de la ville, en QPC, comme on dit aujourd'hui, ayant connu une émeute, possèdent une école défavorisée. Mais le sentiment de relégation dépasse de loin les conditions de la scolarisation. les jeunes eux-mêmes, qui sortent difficilement de leur quartier, l'entretiennent, ce qui rend la recherche d'emploi et l'insertion d'autant plus ardue pour eux. On assiste aujourd'hui à une véritable tribalisation, une territorialisation qui se transforme en ghettoisation lorsque la tribu rejette tout ce qui vient de l'extérieur, même les personnes qui veulent l'aider. Pour le défenseur des droits, le sentiment de relégation dérive de façon générale des difficultés que rencontrent certains de nos concitoyens dans l'exercice de leurs droits, contrairement à ce qu'affirme notre pacte social. Beaucoup de ces jeunes ont le sentiment d'avoir été floués. Les institutions qui devraient être à leur service ne le sont pas vraiment. La promesse républicaine n'est pas tenue. Je voudrais vous donner rapidement quelques illustrations de terrain en allant du plus direct au plus indirect. D'abord, l'éloignement des services publics. Ça a l'air anodin, mais c'est fondamental. La disparition d'un bureau de poste. 2000 d'entre eux ont fermé en France entre 2015 et aujourd'hui. Le regroupement d'agences de la CAF, la Caisse d'assurance familiale, en un seul lieu, ou encore la dématérialisation obligatoire des procédures administratives, comme celle tout simplement de la carte grise, qui n'est plus accessible au guichet, ont une très forte incidence sur la vie de nos administrés, spécialement ceux qui sont faiblement intégrés. Malheureusement, la tendance de ces 20 dernières années fut plutôt à la rationalisation de l'offre, pour le dire pudiquement, et donc à la fermeture des points d'accès à ces services publics, même si l'État prend conscience aujourd'hui de la nécessité de rétablir ces services de proximité. Depuis 2019, 2700 maisons France Services, guichet unique de proximité qui regroupe différents services de l'État, ont ouvert. Ce sentiment de déclassement et d'abandon par l'État, que j'ai souvent vécu en tant que maire, sans pouvoir rien faire, détruit profondément le tissu social. Ensuite, il y a les discriminations cachées. Comme l'attestent les rapports de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, du Défenseur des droits ou encore de l'INSEE, les discriminations ne représentent pas un phénomène marginal dans notre pays. De nombreux testings, comme disent les enquêteurs, ont montré l'existence de biais discriminatoires, notamment à l'embauche ou dans la recherche de logement. En 2019-2020, 18% des Français majeurs pensaient avoir subi des traitements inégalitaires ou des discriminations au cours des 5 dernières années, contre 14% en 2008-2009. Ce chiffre grimpe à 26% pour les immigrés et à 28% pour les descendants d'immigrés. Les discriminations continuent d'être ressenties plus fortement par les femmes, 22%, que par les hommes, 15%. Dans ce domaine, l'école et l'université ne jouent plus leur rôle d'intégrateur. En moyenne, de 2018 à 2020, parmi les jeunes âgés de 25 à 29 ans, 66% des diplômés de l'enseignement supérieur sont des enfants de cadres, de professions intermédiaires ou d'indépendants, 33% des enfants d'immigrés ou d'employés. Les jeunes des quartiers connaissent d'énormes difficultés d'orientation et d'insertion. Une étude de 2021 de l'Institut des politiques publiques révèle qu'en moyenne, à compétences égales, je cite, « les candidats dont l'identité suggère une origine maghrébine ont 31,5% de chances de moins d'être contactés par les recruteurs que ceux portant un prénom et un nom d'origine française. » Et voilà pourquoi un titulaire de master en communication sans emploi, que je connais, a ouvert une librairie musulmane. Troisième cause, le manque d'opportunités économiques. De nombreux économistes décèlent, particulièrement en France, une double fissure. D'abord sur le marché du travail, avec une polarisation entre les emplois hautement qualifiés, bien payés, rares dans certains secteurs et nécessitant des compétences précises, et une multitude d'emplois précaires, peu rémunérés et instables. Ensuite, une fissure territoriale, avec d'un côté des régions qui concentrent activité et dynamisme économique, souvent dans les métropoles, et de l'autre des régions périphériques ou en déclin. Cette double fissure entraîne évidemment un rétrécissement de la classe moyenne, qui subit de plein fouet le ralentissement de l'ascension sociale. Dans les années 50 à 70, une quinzaine d'années de travail permet de doubler son niveau de vie. Dans les décennies suivantes, 40 ans sont nécessaires. Et depuis une dizaine d'années, désormais, plus de 70 ans de travail sont requis pour vivre deux fois mieux. Cette situation constitue un net avantage pour ceux déjà installés dans la vie ou qui disposent de capital, l'héritage constituant désormais plus de 60% du patrimoine des Français, contre 35% seulement dans les années 70. Bref, l'ascenseur social est bloqué. La société française ne favorise pas les nouveaux entrants et les perspectives de progression sont sombres pour une bonne partie de la population. Contrairement à ce qui s'est passé pendant les Trente Glorieuses, on ne quitte plus les tours des quartiers nord de Melun, on y reste. Enfin, la gangrène du trafic de stupéfiants. Dans les nombreuses communes, dont Melun, le trafic de stupéfiants représente la principale délinquance. Le trafic gangrène les quartiers, car il offre des opportunités économiques exceptionnelles à certains jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, qu'ils ne peuvent trouver ailleurs. Regardons les chiffres. Chaque année, le trafic de stupéfiants rapporte environ 3 milliards d'euros. Combien gagne un guetteur, un vendeur, un chef de vente ou un bras droit ? Selon l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, service interne au ministère, la rémunération varie par jour entre 100 et 2200 euros. Comment réintégrer cette population dans le circuit économique normal ? En réalité, sous l'apparence d'une certaine réussite sociale, se cache une exclusion sociale totale. Les dealers de terrain ne participent plus au jeu social et sont les premières victimes de la ghettoïsation. Repli sur un territoire qui se manifeste parfois par de véritables guerres entre bandes rivales allant jusqu'au meurtre et rejet de tout étranger, fût-il maire, policier, pompier, médecin, infirmier, etc. La disparition des services publics de ces quartiers ajoute encore au sentiment d'insécurité ressenti par la population. Nombre de mamans m'ont demandé de leur trouver un logement social ailleurs pour éviter que leur fils ne tourne mal ou tout simplement pour pouvoir vivre en paix. Mais comme vous le savez peut-être, le maire n'attribue que très peu de logements sociaux. Alors, quelle réponse ? Face à cette situation, quels moyens mettre en œuvre ? Deux types de moyens. La répression, bien sûr, pour protéger, la prévention et l'insertion de l'autre, qui fonctionnent ensemble pour empêcher la délinquance sur la durée. La répression. De la façon d'assurer la police et de rendre la justice dépend la répression de la délinquance. Selon les cas, elle atténue, sinon résout, le problème ou, au contraire, l'accentue. La première limite à la répression réside dans l'incapacité de la police nationale, dans de nombreux cas, à mener l'enquête et donc, in fine, à appréhender les délinquants. La police nationale n'arrive plus aujourd'hui à gérer le flux entrant de nouvelles procédures et accumule dans le domaine de la petite et moyenne délinquance un retard de plus en plus considérable. À Melun, quand j'étais maire, les agents de la police nationale renvoyaient tout simplement, systématiquement, les victimes vers la police municipale. Selon la Cour des comptes, dans son rapport de 2023 sur les moyens affectés aux missions de police judiciaire, le stock des procédures non traitées s'élève à 2,6 millions. Il en résulte des taux d'élucidation évidemment très faibles, comme par exemple 10,6% en 2021 pour les cambriolages, et surtout un sentiment d'abandon de la part de la population. La police nationale concentre en réalité ses moyens sur la grande délinquance. Mais le démantèlement d'un trafic international de drogue, aussi important soit-il, n'a malheureusement aucun effet sur le quotidien des habitants qui subissent la loi des dealers. Conscient de ces difficultés, l'État a réformé la police nationale en regroupant dans chaque département les anciens fonctionnaires chargés de l'investigation, ce qu'on appelait la sécurité publique, et ceux rattachés localement à la police judiciaire. Les policiers nationaux vivent très mal cette réforme. Ils y voient la mutualisation des moyens de l'ancienne PJ au bénéfice de la délinquance du quotidien. Traiter la petite et moyenne délinquance est, dans la vision traditionnelle de la police, évidemment beaucoup moins intéressant en termes de recherche et d'investigation que la grande. La seconde limite à la répression vient de sa relative inefficacité en bout de chaîne si la sanction est prononcée trop tard ou si elle n'est pas exécutée. S'agissant du délai, comme l'affirmait déjà Beccaria, et la situation n'a pas changé, plus le châtiment sera prompt et suivra de près le délit commis, plus il sera juste et utile. Notre justice est encore beaucoup trop lente. Malgré de réelles avancées ces dernières années, le délai moyen des procédures correctionnelles en 2021 atteint encore 9,5 mois, celui des classements sans suite 10,2 mois. La même année, en matière criminelle et en première instance, le délai moyen entre le début de l'instruction et le prononcé de la condamnation s'élève à 49,4 mois. De nombreuses procédures s'étalent sur près d'une décennie entre la première instance et la cassation, et la France est d'ailleurs très souvent rappelée à l'ordre par la Cour européenne des droits de l'homme. Là encore, l'État a tenté d'améliorer la situation, notamment grâce à la réforme du Code de la justice pénale des mineurs, en établissant notamment une procédure en deux temps. D'abord, une audience de culpabilité qui intervient dans un délai de 2 mois et demi. Ensuite, un jugement dans un délai en moyenne de 9 mois contre 15 à 18 mois auparavant. Entre les deux, un suivi éducatif qui représente en réalité, avec le traitement psychiatrique, la clé dans de nombreuses situations. Pour l'exécution, citons encore Beccaria. L'un des plus grands freins opposés au délit, c'est non pas la rigueur des peines, mais leur infaillibilité. Or, aujourd'hui, en France, 100 000 peines de prison attendent d'être exécutées chaque année, et un quart d'entre elles ne le sera jamais. L'aménagement des peines ab initio, c'est-à-dire la non-application dès leur prononcé des peines, non criminelles d'emprisonnement inférieur à 1 an, envoie un très mauvais message aux petits délinquants d'une part et aux victimes d'autre part, même si la surpopulation de nos prisons l'explique. Nos forces de sécurité sont souvent complètement découragées. Dans tous les bureaux de vote de Melun, auxquels sont rattachées des casernes de pompiers ou de gendarmes, le vote pour le Front national arrive largement en tête. Devant cette situation, qu'a fait le maire et le président d'agglomération ? Et finalement, c'est le sujet. À la mairie, d'abord. Nous avons renforcé les effectifs de police municipale, qui est passé de 16 à 40 agents. Nous avons créé des brigades spécialisées, adaptées à la petite et moyenne délinquance. Une brigade verte, chargée des infractions liées à l'hygiène et aux déchets sauvages. Une brigade cynophile, pour protéger nos agents dans les gares, notamment. Nous avons augmenté le nombre de caméras de vidéoprotection de 40 à 100. Outils très utiles pour la petite et moyenne délinquance, puisqu'ils dissuadent tout d'abord et permettent d'anticiper les actions délictuelles ensuite. À Melun, désormais, les policiers municipaux réalisent plus de 50% des interpellations avant même que les faits ne leur soient signalés par un appel. Nous avons augmenté l'amplitude horaire des agents, 7 jours sur 7, de 6h à 2h du matin, pour mieux protéger la population qui a besoin d'être sécurisée. Nous avons créé un poste de police dans les quartiers nord pour lutter contre la ghettoisation. Et j'ai pris divers arrêtés, par exemple pour lutter contre l'ivresse sur la voie publique, les rodéos des quads et des motos, ou pour assurer la protection des mineurs par l'obligation qui leur est faite d'être accompagnés d'un majeur à partir d'une certaine heure. En réalité, ces mesures traduisent un véritable transfert de charges de l'État vers les collectivités locales. Melun consacre à la sécurité au sens large près de 5 millions d'euros par an, soit 8% de son budget de fonctionnement, plus que pour la propreté et le sport. Ce budget a quasiment triplé depuis 2016. Dans les faits, la petite et moyenne délinquance relève désormais de la compétence de la police municipale. C'est sans doute d'ailleurs une réforme à adopter, confier la compétence en matière de petite et moyenne délinquance à l'échelon local. À l'agglomération, nous avons créé, c'est très intéressant, un groupement intercommunal de traitement de la délinquance, qu'on appelle un GITD, qui regroupe les représentants de toutes les parties intéressées par la petite et moyenne délinquance sur le territoire. Police nationale et municipale, bailleurs sociaux, éducation nationale, protection judiciaire de la jeunesse, etc. Ces personnes sont soumises à une charte de confidentialité. Le groupement est copiloté par le procureur de la République et moi-même. Et l'objectif est de s'échanger des données nominatives qui permettent de suivre toutes les infractions commises sur le territoire par un même délinquant et de mieux détecter ce que l'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire qui peuvent annoncer la radicalisation. Et ça fonctionne très bien. Nous avons aussi créé un poste de police intercommunale d'abord des transports et ensuite de plein exercice, compétent sur le territoire des 20 communes de l'agglomération. Ce qui est très intéressant sur un territoire tel que celui de Melun, tout dépend des situations locales, puisque ça permet aux grandes villes d'avoir une permanence la nuit, et ça permet surtout aux petits villages qui ne pourraient pas avoir de police municipale de bénéficier de la police intercommunale. Et comme nous avons renforcé notre police municipale, le trafic s'est reporté dans les villages environnants. Je pense que c'est sûrement là aussi une bonne direction de réponse, en réalité imposée par les faits. La mise en place de la police intercommunale de Melun a exigé plus d'un an de négociations avec la préfecture pour établir la convention de coordination avec la police nationale. Sur le terrain de la prévention maintenant, l'État, depuis de nombreuses années, s'investit très fortement dans le cadre de ce que l'on appelle la politique de la ville, pour remédier à la situation des quartiers et notamment prévenir la délinquance. L'ensemble des partenaires, publics ou privés, sont mobilisés sur ce thème, éducation nationale, pôle emploi, bailleurs sociaux, CAF, chambres consulaires, acteurs associatifs, et j'en passe. Dans l'agglomération Melun-Val-de-Seine, la politique de la ville concerne 25% de la population. En quoi consiste-t-elle ? Elle se traduit par toute une série d'actions, comme par exemple des ateliers de soutien à la parentalité, notamment à destination des familles monoparentales. C'est là que ça commence. Par la mise en place de modes de garde, l'encouragement de pratiques sportives pour les jeunes filles, la mise à disposition de structures d'accès aux droits et au numérique. La politique de la ville se concrétise aussi par des programmes de rénovation urbaine, on en parle beaucoup, dont le dernier, le NPNRU, est doté de 12 milliards d'euros au niveau national. L'objectif du NPNRU est de transformer en profondeur plus de 450 quartiers prioritaires en intervenant sur l'habitat et les équipements publics, en démolissant les tours et en rénovant les logements sociaux. Melun bénéficie bien sûr du NPNRU. Enfin, les grandes institutions culturelles nationales ont, si j'ose dire, ajouté leur pierre à l'édifice grâce à des opérations comme Microfolie. Ce sont des visites virtuelles de musées en partenariat avec l'établissement public de la Villette ou encore le Louvre chez vous. Ce sont des prêts de reproduction d'œuvres d'art qui, en 3 ans, ont touché plus de 15 000 personnes. 15 000 personnes sur 42 000 habitants. Beaucoup a été fait par la puissance publique. Nous, villes et agglomérations, nous avons complété ces actions nationales. D'abord par un programme que nous avons appelé de réussite scolaire. En France, chaque année, plus de 100 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme ni formation. Sur le territoire de Melun-Val-de-Seine, près de 500 décrocheurs et décrochées dès la troisième ont été mis à la porte de leur collège ou de leur lycée. À Melun, ils sont désormais accompagnés par une association en lien avec la protection judiciaire de la jeunesse qui les remet à niveau en termes de connaissances et surtout qui leur apprend ou leur réapprend les comportements sociaux de base. À côté de ce programme, nous avons, dans le même but, ouvert une usine-école en partenariat avec des entreprises pour former les jeunes en voie de décrochage scolaire à des métiers rares du secteur de l'aéronautique, comme chaudronnier, soudeur, etc. Mais soudeur sur logiciel, chaudronnier sur logiciel. Nous avons créé une université de proximité. Pour réellement promouvoir l'égalité des chances, il faut que l'université non seulement ouvre ses portes à tous, mais aussi que la formation qu'elle offre soit véritablement accessible et adaptée à tous. C'est pourquoi il faut développer, à côté des universités de recherche, un modèle d'université de proximité inscrite dans leur bassin économique, social, géographique et démographique. Ces universités de territoire jouent pleinement leur rôle d'ascenseur social en proposant des formations adaptées aux étudiants et correspondant au bassin d'emploi. L'université d'Assas-Melun en est un parfait exemple. Elle est arrivée là par hasard, puisque Melun aurait dû devenir une ville nouvelle. Elle propose aux étudiants de tout le sud de l'Île-de-France d'effectuer leur licence à Melun, puis de rejoindre Paris pour les masters. Ces étudiants n'auraient jamais pu suivre directement les cours à Assas. Ils n'auraient même pas pu se payer le logement à Paris. Ils sont de milieux sociaux beaucoup trop défavorisés. Figurez-vous qu'une fois à Assas, ils ont de meilleurs résultats que les Parisiens parce qu'ils en veulent plus. Ensuite, nous avons ouvert des centres d'affaires dans les quartiers. On l'ignore trop souvent, les quartiers prioritaires sont en France les premiers créateurs d'entreprises. Les jeunes des quartiers veulent réussir. Souvent, ils ne possèdent pas de diplôme, ils n'ont pas passé de concours. Mais ils ont l'inventivité, l'imagination et l'audace nécessaires pour créer une entreprise. Ce n'est pas l'énergie qui leur manque, mais les codes, les soft skills, comme disent les anglo-saxons. Alors, dans chacun des centres d'affaires, il y en a trois, les créateurs bénéficient de services mutualisés, secrétariat, permanence téléphonique, d'un service de communication qui leur permet de réaliser un site internet, d'un suivi de post-création pour leur permettre de faire des contacts avec les banquiers et les administrations. Depuis leur ouverture en 2018, plus de 120 entreprises ont été créées et existent toujours sur le territoire de la communauté d'agglomération, grâce à ces trois centres d'affaires. Les pouvoirs publics mobilisent aujourd'hui des moyens colossaux. 117 milliards d'euros depuis 2010 en matière de politique de la ville. 13 milliards d'euros en matière de sécurité pour la police nationale, rien qu'en 2024. 64 milliards d'euros par l'État et 37 milliards par les collectivités locales en matière d'enseignement scolaire en 2024. Pourtant, les chiffres de la petite et moyenne délinquance sont en hausse. Que manque-t-il à nos politiques ? D'abord, très modestement, elles sont trop abstraites. L'État crée de nombreux dispositifs spécifiques, notamment en matière scolaire, l'éducation prioritaire avec les zones REP et REP+, les cités éducatives, les sections d'enseignement général et professionnel adapté, qui offrent des moyens pédagogiques supplémentaires, allègent les classes, fournissent des petits déjeuners, etc. À une rue près, des élèves qui se trouvent à peu près dans la même situation ne bénéficient pas des mêmes dispositifs de soutien. Ce que je viens de décrire pour une école ou un quartier est souvent vrai pour une ville tout entière. Au surplus, au sein d'une zone défavorisée, l'intervention ne peut être que limitée et spécifique. Quand on octroie un avantage définitif, au lieu d'aider à gagner cet avantage, l'on substitue en réalité une nouvelle discrimination à celle que l'on vise à supprimer. Une discrimination à l'égard de ceux qui ne bénéficient pas de cet avantage. Une discrimination à rebours. Tous les témoignages concordent. Les premières victimes de la discrimination positive sont les bénéficiaires de cette discrimination qui souffrent de ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur et se sentent déconsidérés eux-mêmes. Comme le dit si bien le proverbe chinois, quand un homme a faim, il vaut mieux lui apprendre à pêcher que lui donner du poisson. Pour ne pas créer de nouvelles fractures, nous devons donc collectivement trouver des mécanismes qui permettent à la fin à tous nos jeunes de se trouver dans le même système. Lorsque je suis devenu président de Panthéon Assas, j'ai mis en place un parcours que j'ai appelé parcours réussite, notamment à Melun. L'objectif est de remettre à niveau en un an, en supprimant des cours de droit et les remplaçant par des cours de culture générale, d'orthographe et de grammaire, des étudiants dont, au vu de leurs résultats au lycée, nous sommes sûrs qu'ils échoueront à Paris 2. Mais dès la fin de l'année, ceux qui ont réussi, un tiers de cet ensemble d'étudiants, rejoignent le circuit normal. Ces politiques, ensuite, sont trop superficielles. À cet égard, l'exemple des programmes de rénovation urbaine est éclairant. Depuis leur mise en place, l'objectif n'a pas été atteint. Depuis 2003, on démolit, on rénove, on remplace, on répare, mais les quartiers QPV restent des quartiers QPV et le trafic perdure. Les habitants sont accompagnés dans une démarche de recherche de logement ailleurs, mais sont remplacés au sein des quartiers nouvellement rénovées par une population tout aussi fragile. Alors que nous déracinons des familles, nous améliorons très peu la situation du quartier. Les statistiques sont cruelles. En 2024, seuls 40 quartiers sur un total de 1362 sont sortis de la classification QPV. Les moyens colossaux mis en œuvre n'agissent qu'à la surface des choses. Il ne suffit pas de rénover les bâtiments. Il faut durablement changer les conditions de vie. Seules les activités et les opportunités économiques dont les jeunes sont eux-mêmes les acteurs changeront réellement l'ambiance des quartiers. L'ouverture de centres d'affaires, d'usines-écoles ou encore de régies de quartier qui permettent par exemple à des jeunes de rendre des services aux seniors recréerait de l'espoir et du lien social. Enfin, ces politiques sont trop éloignées des réalités de terrain. Les exemples de la police municipale et de la police intercommunale parlent d'eux-mêmes. C'est à ce niveau qu'il faut traiter la petite et moyenne délinquance. Quand notre pays comprendra-t-il que le contrôle central n'est pas la seule solution et que les actions locales à la périphérie sont souvent les plus efficaces ? Pourquoi d'ailleurs ? D'abord, parce que les élus locaux sont les plus motivés. C'est à eux que l'on vient réclamer des comptes. C'est eux qui sont en première ligne, comme on dit entre nous, à la portée d'engueulade. Ensuite, parce que les élus locaux ont la vision la plus juste du terrain. Ils sont les seuls à savoir ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire à Belin n'est pas ce qu'il faut faire à Omé. Car ce qu'il faut faire varie d'un territoire à l'autre. Ce qui condamne ipso facto tous nos grands plans nationaux qui se réduisent nécessairement au plus petit commun dénominateur. Même si l'intention est louable, et il ne suffit pas d'organiser des petits déjeuners dans les écoles pour lutter contre la délinquance. Le temps n'est plus à l'accompagnement. Il est au traitement. En revanche, je crois beaucoup à l'implantation d'universités de proximité, de centres d'affaires ou encore d'internats, comme le Premier ministre vient de l'annoncer, permettant d'extraire les jeunes des milieux dans lesquels ils sont emprisonnés. Tout investissement lourd qui nécessite des moyens énormes, que malheureusement l'État n'est pas en mesure de fournir aujourd'hui. Finissons quand même sur une note optimiste. Je suis sûr que vous ne savez pas, mes chers confrères, que l'université Melun-Assas est entièrement financée par l'agglomération de Melun et que nous venons d'ouvrir une faculté de santé avec l'université Paris-Est-Créteil, elle aussi entièrement financée par notre agglomération, avec un système de bourse très original permettant d'aider véritablement les plus défavorisés et de former des médecins qui restent à Melun. Ils doivent rembourser leur bourse s'ils vont s'installer ailleurs. Que ce soit Lénine, Churchill, Luther ou Einstein qui l'ait dit, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Déconcentrons, décentralisons, faisons confiance et notre pays réussira.
Et nous ne sommes pas déçus, non. Franchement, vraiment, merci. Hein. Merci pour les constats très concrets. Merci pour les propositions, merci pour les exemples de réalisation, merci pour ton enthousiasme, parce que c'est ça qui nous permet de nous raccrocher à un petit peu d'optimisme, précisément.